おかぴん、おかぴん。おかぴん。
Bonsoir, près de 50 jours après l'investiture du gouvernement d'Izenga, quel bilan peut-on en faire? Quel est le domaine du président de la République et celui du Premier ministre? Enfin, quels sont les rapports entre le gouvernement d'Izenga et l'opposition politique? Voici de quoi nous parlerons dans le dialogue entre Congolais de ce soir. Nous aurons un seul invité, Godefroid Mayobo, ministre auprès le Premier ministre et porte-parole d'Antoine Gizenga Fungi. Ce thème a fait l'objet de réflexions de nos auditeurs. Ils sont des centaines à nous avoir envoyé leurs messages. Nous en sélectionnons quelques-uns. Ildefonso Nkumwimba de Manono dans la province du Katanga pense qu'il est encore trop tôt pour donner un bilan de ce gouvernement. Tandis que Kamani Vitia de Butembo dans la province du Nord Kivu demande s'il y a un changement du point de vue politico-socio-économique et financier après ces 50 jours de service. Enfin, Bambela Bova de Kenge dans la province du Bas-Congo affirme que jusque-là, le gouvernement d'Izenga a un bilan négatif car il n'y a rien de spécial qui s'est fait. L'insécurité persiste toujours et tranquille.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Quel bilan faire des 50 premiers jours du gouvernement d'Izenga? C'est la première partie de cette émission. Mais certains Congolais ont réagi par rapport au bilan de 50 jours du gouvernement d'Izenga. À ce sujet, la plupart des habitants interrogés dans différentes villes de la RDC ont estimé que le bilan de ces 50 jours était en général négatif. Par contre, d'autres ont estimé qu'il est encore trop tôt de faire le bilan d'un gouvernement sans moyens financiers, suivant leurs propos recueillis à travers 5 provinces du pays par le réseau Okapi.
Je m'appelle Emel Tambo et j'habite Lubumbashi. L'électricité de la route, rien, pratiquement, n'est en train de construire un échec. Parce que, avant de construire, il faut d'abord qu'on voie les œuvres du début. Ce sont des promesses fallacieuses. Il y a embouteillage à chaque jour. Cela est dû au mauvais état de route. Ça,
je m'appelle Mama Elise Kiteto de Bandoulou.
Bon, moi, je crois que ce gouvernement donne l'air d'être un mof, hein, surtout. Et par rapport à notre province de Bandoulou, depuis que nous avons connu les problèmes de Kaemba, et ça nous met un peu en déroute. Jusque-là, le silence du gouvernement ne nous garantit pas la sécurité. Et du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur, on ne sait pas qui a raison.
Je m'appelle Chimène Tima de Machadi. Pour notre gouvernement, je veux dire ceci. Personnellement, ce que moi je constate, c'est comme si nous n'avons pas un gouvernement. Il y a eu un incident ici au Bas-Congo, plus précisément ici à Matadi, mois de janvier à février, problème de BDK et les policiers. Mais c'est comme si notre gouvernement n'a pas réagi. Nous avons vu qu'il y avait des ministres et nous ne savons pas au juste qu'est-ce qu'ils étaient venus faire ici. Jusque-là, moi, vraiment, personnellement, c'est que je considère comme si nous n'avons pas un gouvernement. Et le problème qui se pose, nous voulons qu'il y ait un autre gouvernement qui puisse vraiment faire quelque chose.
Eh bien, c'est M. Roger Kapangu, je suis à Kinshasa. C'est vrai que c'est difficile d'apprécier un site de quel le travail qu'il fait, mais il faut reconnaître aussi quelque part qu'il me semble, en tout cas, que ça traîne. Ça prend vraiment de la longueur parce qu'il y a des domaines prioritaires auxquels le gouvernement devait s'attaquer. Et jusque-là, apparemment, il n'y a rien. Bon, les gens doivent vivre. Il y a les routes qu'il faut reconstruire. Il y a les soins médicaux. Il y a tout un tas de problèmes que le gouvernement n'ignore pas d'ailleurs. Ceux qui en parlent à la longueur des journées. Mais apparemment, les choses traînent.
Clément, à Goma. L'insécurité dans la province du Nord Kivu, c'est notre lot quotidien. 50 jours après, et après les opérations de mixage des soldats autrefois fidèles à Laurent Kunda, nous constatons que beaucoup de choses n'ont pas changé. Après les mixages, nous continuons à enregistrer des cas d'assassinat, des cas de vol à main armée. Beaucoup de choses sont en train de se passer. Donc nous ne sentons pas encore le travail du gouvernement d'Izenga ici dans la province du Nord.
Ouais, je suis à Goma. Moi, je pense qu'il faut encore attendre que Izenga ait tous les moyens possible. Et après cela, on pourra maintenant évaluer. L'insécurité au Nord-Kivu, ça date de longtemps. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu en un jour. Donc ça doit nécessairement prendre le temps parce qu'on doit lui laisser le temps. Laisser le temps au gouvernement et à tous ceux qui se préoccupent de cette question. De se préparer, de réunir tous les moyens utiles et d'agir en responsable.
Bonsoir, monsieur Godefroy Mayobo.
Bonsoir, monsieur.
Et je rappelle que vous êtes ministre auprès du Premier ministre, porte-parole du Premier ministre Antoine Gizenga. Nous souhaitons la bienvenue dans ce studio de Radio Capi. Votre réaction.
Ma réaction, c'est que, premièrement, il y a beaucoup de bon sens dans ce que certains ont dit. En 50 jours, on ne peut pas faire un bilan objectif, sauf si c'est un bilan subjectif. Et ensuite, nous comprenons que notre peuple souffre. La population souffre et tout à fait légitimement, elle veut des solutions rapides, mais elle doit aussi savoir que toute solution exige un temps. Et pour tous les problèmes, pour toutes les solutions, ce n'est pas la même durée qu'il faut. Quoi qu'il en soit, il faut qu'on retienne que beaucoup de solutions à mettre en œuvre exigent des moyens. Mais quelle est la situation dans laquelle le gouvernement Gizenga, qui est investi le 24 février 2006, et non pas en 2007, et non pas en 2006, trouve les caisses de l'État un déficit de 60 millions de dollars. C'est-à-dire, on avait déjà engagé des dépenses portant sur le mois suivant. Et après un mois, vous avez entendu les performances réalisées grâce au sacrifice des ministres.
Quelques performances.
Les réalisations des DGRAT, des DGI, qui nous ont occasionné un bonus de 30 millions de dollars. Et vous voyez, quand le trou a été très profond avant, les bonus qu'on fait, c'est surtout pour combler les trous.
Donc, c'est pourquoi peut-être on n'a pas ressenti, parce que les Congolais peuvent se dire un bonus de 30 millions, mais ça pouvait quand même aider à réaliser certains projets du 5 chantiers.
Exactement. Les bonus de 30 millions, ça a permis, par exemple, de payer ce qu'on n'avait pas payé avant. Et en payant sur base des réalisations réelles des caisses, cela a stabilisé les taux de change qui avaient pris de l'ascenseur à cause du déficit que les autres avaient laissé. Et vous savez que pour tous les chantiers à mettre en œuvre, il faut des moyens. Première chose, il fallait chercher et des moyens de l'extérieur. On n'était plus en programme avec les partenaires extérieurs. Et vous avez vu comment on a dû se déployer pour la Banque mondiale, le Fonds monétaire, l'Union européenne, la Commission mixte avec la Belgique, la France est venue. Et puis les moyens internes, et c'est en serrant la ceinture, en fermant les robinets, en attirant l'attention des uns et des autres, qu'on arrive déjà à voir cette lueur des perspectives en termes de bonus dans les recettes internes. Ce n'est que quand nous avons des moyens que nous pouvons alors mettre en chantier certains travaux. Et nous ne pouvions pas commencer, par exemple, à faire les points à temps, les réparations ponctuelles des routes, par exemple à Kinshasa, sans moyens. Et ça, il ne fallait pas qu'en deux jours de gouvernement, les moyens entrent dans les caisses.
Mais
nous comprenons l'impatience des uns et des autres.
Oui,
mais pour un bilan objectif, il faut absolument qu'on sache sur quoi on fait le bilan. Parce que le bilan pour un gouvernement qui commence, ça doit porter sur les actes de préparation des travaux futurs. On ne peut pas demander des travaux dès qu'on entre au moment où on ne connaît même pas les moyens dont on dispose.
Monsieur Godefroy Mayobo, j'espère bien que vous n'allez à l'issue de 5 ans, vous n'allez pas nous parler des problèmes, des moyens que vous avez vus comme raison de n'avoir pas réalisé peut-être le projet de votre programme du gouvernement.
Pas du tout.
Pas une chanson dans ce pays.
Non, pas du tout, parce que vous voyez bien la tendance, c'est quoi? Dès que nous commençons à réaliser les bonus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons évoluer de plus en plus vers l'acquisition de moyens propres et quand les moyens extérieurs vont venir dans un climat de bonne gouvernance, nous irons effectivement dans la réalisation des projets que nous avons arrêtés. Et il n'y aura pas de raison dans 5 ans de vous dire on n'a pas fait ceci par manque de moyens ou par manque de telle ou telle facilité. Donc, vous pouvez être rassuré, la tendance sera maintenue parce que la lutte contre la corruption sera implacable, la bonne gouvernance sera de mise. Nous n'allons pas accepter le détournement des deniers. On va traquer ça et nous sommes
en commençant par le gouvernement.
Bien sûr, en commençant par le gouvernement, je peux vous annoncer que le mois que le premier ministre a passé à la primature a déjà donné lieu à un audit. Des auditeurs sont passés.
Et quel en est le résultat brièvement?
Tout juste. Positif, il n'y a pas de problème, rien à signaler.
Mais ça, c'est vous qui le dites. Hein.
Mais vous pouvez aller vérifier. Les auditeurs sont passés, vous pouvez aller vérifier.
Monsieur Godefroy Mayobo, avant que nous n'écoutions d'autres personnes, il y a Monsieur Amani Vitia de Boutembo dans la province du Nord Kivu qui vous pose cette question. Il demande s'il y a un changement depuis que vous êtes là, depuis que vous, votre gouvernement a été mis en place. Est-ce qu'il y a un changement du point de vue politique, social, économique et financier?
Du point de vue politique, le changement, c'est que on fait tout pour garantir l'ambiance démocratique. Les institutions fonctionnent, on respecte les prérogatives des uns et des autres, et nous pensons que politiquement, il y a une vision qu'on suit. Et il y a une opposition à côté qui peut critiquer.
On parlera de l'opposition.
On parlera aussi de l'opposition. Politiquement, nous sommes en train de préparer les rencontres, pas des négociations, non, des rencontres normales, conviviales, pas de complaisance, mais conviviales entre les uns et les autres. Politiquement, nous nous préparons à mobiliser la population pour qu'elle se remette au travail, qu'elle contribue bientôt. On cherche à élargir l'assiette fiscale par un appel de tout le monde à contribuer pour la réalisation de ce que nous demandons pour notre pays. Donc, politiquement, nous pensons que la grande ambiance démocratique est garantie, malgré les quelques perturbations qu'il y a eu. Politiquement, nous pensons que la conflictualité en termes de groupes politiques disparaît.
Mais socialement et économiquement.
Bon, nous allons, et financièrement. Financièrement, je vous ai cité déjà quelques résultats et nous n'avons pas encore mis en œuvre toutes les mesures que nous voulons en termes de maximisation des recettes et en même temps d'empêchement de dilapidation de ces recettes. On va bientôt mettre tout cela en œuvre et vous verrez ce que ça va donner. Donc, financièrement, nous sommes passés déjà d'un état déficitaire entre les dépenses et les recettes vers un état de bonus. Socialement, vous savez que les faits sociaux, ça ne se règle pas comme ça.
Les moyens de transport, la nourriture, les soins médicaux, l'éducation.
Tout cela est lié aux moyens financiers. Et ce que nous pouvions faire avec le peu de moyens que nous avons trouvés, par exemple, faire face aux calamités qui s'étaient, enterrer les morts, venir en aide à ceux qui ont connu des problèmes après des pluies torrentielles à Kimbanseke et à Njili, aller au secours de nos étudiantes de l'Unikid sinistrées par les...
Non, mais c'est le vécu quotidien.
Oui, mais ça, c'est normal. Mais on ne peut pas, avec 10 millions, 20 millions, 30 millions qu'on trouve dans la caisse, aller dans toutes les maisons au même moment au Congo. Ce n'est pas possible. Vous comprenez?
Mais M. Godefroy Mayobo, c'est quand même assez frappant que dans le point de vue recueilli de la population à travers le pays, même dans les SMS qui nous ont été envoyés, que beaucoup de Congolais disent que votre bilan est négatif.
Mais c'est quel type de bilan? C'est ce que j'ai dit. Parce que sur quoi peut porter un bilan de 50 jours? C'est ça la question véritable. Parce que si vous voulez, en 50 jours, demander combien d'immeubles de 100 étages ont été construits, là, c'est évidemment, vous direz, c'est négatif. Parce qu'au départ, vous croyez qu'un immeuble peut être construit en 50 jours. Ça dépend de ce que vous mettez dans le bilan en question. Et le bilan ici, ça porte sur des travaux de préparation des chantiers futurs à lancer.
Mais ça va durer jusqu'à quand les travaux de préparation? Parce qu'il y a par exemple M. Mungui Kotulinabo de Massissi Nord-Kivu qui vous pose cette question. Il disait qu'il avait promis de résoudre les problèmes de la population. Quand va-t-il commencer à le faire? Il y a Michel Lukoji du Katanga qui dit ceci: nous sommes fatigués des projets sans action, passés aux actes concrets. Et John Beni dans la province du Nord-Kivu qui remercie le premier ministre Gizenga pour les services combien louables du message rendu à la population du Nord-Kivu, bilan des centaines de morts.
Bien. Le mixage, vous savez, c'est une opération qui a commencé avec le gouvernement de transition. Bundu dia Congo, c'est un problème qui s'est passé avec le gouvernement de transition. Et quand le problème s'est passé, le gouvernement du Zenga est venu trouver les conséquences du problème et qu'il est en train de résoudre. C'est quoi? Par exemple, c'est faire appliquer la justice. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il faut enquêter et punir les responsables éventuellement. Il n'y a pas autre chose à faire qu'un gouvernement responsable peut faire. Et évidemment, soulager ceux qui sont dans la détresse, le cas échéant. Pour le mixage, que le ministre de la Défense a bien expliqué lors d'une question orale à l'Assemblée nationale, c'était une opération commencée pendant avec le gouvernement de transition pour arriver à stabiliser la situation et faire reprendre l'opération de brassage. Mais vous savez bien que du point de vue républicain, nous dépasserons même l'aspect brassage pour aller vers l'intégration, l'unification, la transformation républicaine de l'armée.
Donc on ne va pas s'arrêter au mixage, mais ce n'est qu'une étape.
D'ailleurs, le mixage, c'était quelque chose de ponctuel et de localisé. Le vrai phénomène qui avait, disons, la vraie procédure qui avait été mise au point pendant la transition, c'est le brassage. Mais la République ne va pas s'arrêter là, parce que le brassage implique la coexistence de plusieurs armées appartenant à plusieurs personnes qui commettent ensemble.
Donc, vous voulez dire maintenant, oui.
Non, maintenant, on doit passer rapidement au fait qu'il y a une seule armée de la République, et l'intégration doit être telle que aucun soldat ne doit plus avoir une idée qu'il vient de tel ou tel coin ou de tel ou tel groupe. Ça, c'est ça la transformation républicaine de l'armée.
Mais le mixage ne va pas s'arrêter là. Donc après avoir été mixé, ces militaires là qui sont en Nord-Kivu passeront au brassage comme tout le monde.
Le mixage va s'arrêter là et laisser la place au brassage. On revient au brassage pour passer alors et à la phase de la transformation républicaine.
Et les militaires mixés, ils vont rester comme ça ou bien ils vont aussi passer à l'étape du brassage?
Mais c'est ce que j'ai dit, le brassage va s'arrêter là pour laisser la place, plutôt le mixage, pour laisser la place au brassage. Ce qui a été mixé doit passer maintenant au brassage, et le brassage laisser la place à la transformation républicaine de l'armée. Une seule armée avec des soldats à l'intérieur qui sont des fils de la nation et qui se sentent redevables à une seule nation et obéissant aux mêmes structures étatiques, pas à double commandement ou à triple commandement ou à triple autorité politique cachée.
50 jours après l'installation du gouvernement Gizenga, quel bilan peut-on en tirer? C'est la première partie de cette émission. Et quel est le domaine du président de la République et quel est le domaine du premier ministre? C'est la deuxième partie de cette émission. Il n'y a pas de confusion à faire entre le travail du chef de l'État et celui du premier ministre. Chacun sait quel rôle il doit jouer. Ces propos sont de l'honorable Aubin Minaku, membre du comité national du PPRD. Selon lui, la grande difficulté pour les Congolais, c'est l'intériorisation de la Constitution. Aubin Minaku a été joint au téléphone par Kéline Kouté.
Je crois que nous ne sommes pas habitués. Les Congolais, pendant trois décennies, n'ont pas été habitués à un système de gouvernement où il y a un président de la République et un premier ministre chef de gouvernement. C'est là le grand problème. C'est toute une culture que nous devons intérioriser, nous, Congolais. Il n'y a pas confusion du tout. Sachez que le président de la République, c'est le chef de l'État. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il a plusieurs pouvoirs, notamment pour assurer l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le premier ministre est chef de gouvernement. Et l'un comme l'autre, je crois qu'ils ne s'inscrivent pas dans l'approche habituée au Congo, à savoir le match du jeu. Il ne faut pas qu'on voit chaque fois le Premier ministre à la télé. Il ne faut pas qu'il fasse chaque fois des déclarations pour qu'on dise que le Premier ministre travaille. Qu'est-ce que le gouvernement précédent a légué au gouvernement actuel issu des urnes? Quasiment rien. Donc je crois ici encore que c'est très tôt de parler de l'immobilisme. Et puis la difficulté c'est du côté de la compréhension, l'intériorisation de la constitution. Il n'y a pas de confusion du tout entre l'exercice du président de la République et le rôle du Premier ministre en tant que chef de gouvernement. Je ne crois pas.
Monsieur Godefroy Mayobo, je rappelle que vous êtes ministre près le Premier ministre, porte-parole du chef du gouvernement Antoine Gizenga. Vous êtes ici dans notre studio. Il y a certains Congolais qui pensent que si le Premier ministre Antoine Gizenga n'arrive pas à travailler normalement, c'est parce que le chef de l'État lui fait ombrage. C'est-à-dire qu'il a les mains et les pieds liés. Il n'est qu'une simple, je ne sais pas quel terme je peux employer, mais il n'arrive pas à travailler parce que le chef de l'État ne lui laisse pas les mains libres. Qu'est-ce que vous en pensez?
Une fois de plus, il faut que nous vous enlevions beaucoup de subjectivisme dans les jugements de nos compatriotes. Premièrement, il n'y a aucune confusion, aucune conflictualité, aucune friction, aucun malentendu entre le président de la République et le Premier ministre. Ils travaillent en concertation, même s'ils ne le voulaient pas, ils sont obligés par la Constitution.
Excusez-moi, je continue.
Deuxièmement, ceux qui disent que M. Gizenga ne travaille pas avec son gouvernement, mais ils sont, je ne sais pas comment nous pouvons juger leur approche. Et le gouvernement, première semaine, remise et reprise. Deuxième semaine, premier conseil des ministres. Et troisième semaine, il y a des perturbations, il fallait faire face à une situation sociale. Quatrième semaine, c'est un séminaire pour avoir la même vision. Et préparation intense du budget, c'est à partir du budget qu'on peut engager les moyens de l'État dans certains travaux. Et il a promis à la fin du mois, c'est le dépôt du budget à l'Assemblée nationale. Avez-vous vu beaucoup de gouvernements en moins d'un mois être capables d'élaborer un budget et de le déposer à l'Assemblée nationale?
Mais c'est quand même c'est plusieurs raisons qu'ils avancent.
Excusez-moi, oui, avant cela déjà. Il a fallu 3 semaines pour que le gouvernement nommé puisse monter un programme et passer avec succès le concours devant l'Assemblée nationale. En avez-vous beaucoup réussi un tel exercice en si peu de temps? Et puis, pendant ce temps-là, des missions s'effectuent, des contrôles, des visites, d'encouragement, d'orientation. Il y a des mesures d'encadrement qui se prennent. Les résultats, c'est une amélioration de la situation financière. Il y a ceux qui voyagent, par exemple, dans les aéroports et dans les ports, voient une amélioration en termes de tracasserie des systèmes qui perturbent. Lentement, on avance et on avance. Et il ne faut pas croire que tous les maux que le gouvernement doit traiter aujourd'hui, c'est lui qui les a créés.
Que fait le Premier ministre?
Le chef de l'État. Mais tout ce que le gouvernement fait, puisque le gouvernement travaille, vous voyez des ministres déployés, vous voyez des résultats au niveau des structures étatiques, ça ne vient pas comme ça spontanément. Il y a quelqu'un qui coordonne, il y a quelqu'un qui oriente. Et c'est le Premier ministre. Mais le Premier ministre le fait avec en concertation avec le président de la République. Quel est le président de la République? Mais ces missions sont clairement définies dans la Constitution. Est-ce que vous avez vu le président de la République prendre un décret? Le premier ministre, lui, va prendre des décrets. Le président, il prend des ordonnances. Le président nomme certaines responsabilités. Le Premier ministre, lui, il va nommer à d'autres responsabilités. Il fallait pour cela qu'il y ait certains textes qui soient déjà pris, laissons passer d'autres difficultés logistiques qui sont dues d'ailleurs à ce que le gouvernement passé a laissé, a légué au gouvernement actuel.
Ah, ça, c'est une bonne raison.
Non, mais bien sûr, parce que le matériel conditionne tout. Vous ne pouvez pas demander aux gens de travailler comme des simples esprits comme ça. Il y a le matériel qui conditionne.
Le président, il parle quand même, mais le premier ministre ne parlait pas. Est-ce que ce n'est pas ce qui peut dire à certains Congolais que non, mais le premier ministre ne travaille pas, on ne le sent pas, certains de nos auditeurs l'ont dit d'ailleurs.
Monsieur Gizenga n'est pas de ceux qui croient que parler c'est travailler. Non. Parler, le travail, ça ne peut pas se résumer à travailler. Ce n'est pas un nouveau venu sur l'échiquier politique congolais. Ceux qui peuvent faire un effort peuvent savoir quelles sont ses méthodes, quelle est sa façon de se comporter. Il dit ceci, je ne communiquerai que sur base des réalisations, sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on veut faire. Et pas simplement sur des spéculations. Aller discuter sur des rumeurs, ce n'est pas ça le rôle d'un gouvernement. Et lui, tous ceux qui le connaissent dans sa vie politique savent que c'est un homme qui a été plus porté vers des actions que vers des paroles. Donc, c'est pas la peine aujourd'hui de croire qu'au moment où il a ses responsabilités de conduire un gouvernement, pendant qu'il cherche comment mettre en œuvre des chantiers qui seront concrètement ressentis dans les résultats par le peuple congolais, qui doit passer le temps à parler, parce que beaucoup de gens ont cru ici que parler, c'est ça faire décoller un gouvernement. Il y a des gens qui ont parlé pendant 3 ans, mais ce qu'ils ont laissé, c'est rien du tout pour le pays. Si c'est ça travailler pour un gouvernement, alors nous regrettons beaucoup, ce n'est pas ça la ligne du gouvernement du Sénat.
Vous dites que le président de la République aussi travaille, mais cela ne l'empêche pas de parler.
Oui, mais le président de la République parle, et vous croyez qu'il a parlé 55 fois. Le président de la République a parlé quand c'était nécessaire, quand il a jugé qu'il fallait qu'il communique. Et vous êtes sûr que depuis que M. Gizenga n'a pas parlé, moi je me rappelle bien que lorsque le ministre Dedeker est passé, il a quand même parlé. Bon, il y en a évidemment qui voudront aussi que M. Gizenga parle pendant 5 heures. J'ai 10 minutes, 2 minutes, ça ne suffit pas. Pour eux, il faut tout le temps parler. Non. M. Gizenga a dit avec le gouvernement, et je crois que ça aussi, c'est ce qu'on voit généralement dans la pratique du président, communiquons sur ce qu'on fait et sur ce qu'on veut faire en mobilisant les autres.
Exactement.
Et non pas communiquer sur les rêveries et sur les spéculations.
Lima de Bounia dans la province orientale croit que le bilan est négatif parce qu'il règne une confusion entre les actions du gouvernement et les 5 chantiers du chef de l'État.
Non. Nous voudrions lui expliquer ceci
rapidement.
Le projet que le peuple a choisi majoritairement sur toute l'étendue du président de la République, c'est le projet présenté lors de l'élection présidentielle. Et ce projet-là, c'est celui qui était présenté par le président Kabila, et ce projet-là, il a résumé dans ce qu'il considérait comme les 5 chantiers de base sur lesquels on pouvait s'appuyer pour redresser le pays. Tous ceux qui viennent après, pour au gouvernement mettre en pratique le projet majoritaire majeur. Il ne peut pas l'ignorer.
Mais où est le projet du Palou? Le projet du Palou, il a été engagé.
Non, ce n'est pas le projet. Le projet du Palou, c'est un projet idéologique. C'est un projet d'un parti lorsqu'il va en propagande et il va en campagne.
Mais
non, il y a eu une élection. Il ne faut pas faire l'impasse sur l'élection. Le peuple congolais a choisi. Il a confié des mandats. Il a confié le mandat du président de la République à M. Joseph Kabila sur base d'un projet qu'il a accepté. Tout le monde est obligé de faire en sorte de réaliser ce projet, puisque le peuple l'a choisi. Ce n'est pas parce que c'est M. Kabila ou M. T, puisque le peuple l'a choisi, c'est celui-là qu'on doit exécuter. Et le gouvernement est tenu d'exécuter celui-là. Parce que sinon, c'est trahir le peuple que d'aller chercher à exécuter autre chose que ce qu'il avait fait. Donc, les gens doivent bien comprendre, quand on fait ça, quand on se rattache à ces 5 chantiers, c'est par respect pour les choix légitimes du peuple. Ce n'est pas par simple soumission ou par, je ne sais pas, instrumentalisation. Non, c'est par respect de ce que le peuple légitimement a choisi et personne ne peut faire l'impasse là-dessus. Il n'en a pas choisi 2 majoritairement, il en a choisi 1.
Donc le projet du Palou reste un peu dans les tiroirs, si je vous comprends bien.
Non, pour le moment, ce n'est pas Palou qui a été choisi comme président de la République avec le projet majoritairement choisi. Palou est honnête, Palou, en alliance, en coalition avec d'autres, sont venus pour mettre ensemble en place un gouvernement pour réaliser ces projets que le peuple a besoin.
Quels sont les rapports entre le gouvernement Gizenga et l'opposition? C'est la troisième partie de cette émission. Le MLC, de son côté, pense qu'il fait d'abord un bilan sur le gouvernement. Le MLC pense que le bilan à faire du gouvernement Gizenga 50 jours après est inquiétant, mais espère que cette inquiétude sera provisoire. Suivons M. Romain Nimi, secrétaire national du MLC chargé de réforme, joint par Kevin Kouté.
50 jours après, avec toute la bonne volonté du monde, force nous est de constater que les signaux qui sont envoyés sont des signaux très inquiétants. Tenez, en matière économique, nous relevons l'absence de budget, une lenteur extrême dans l'élaboration du budget qui va fixer les axes effectifs du gouvernement. L'inflation est toujours galopante, le pouvoir d'achat ainsi que le taux de change n'évolue pas dans le bon sens. Bref, sur le plan économique, il y a de quoi s'inquiéter. En matière de respect des droits de l'homme et de la sécurité des citoyens, il y a une recrudescence de l'insécurité, un irrespect des droits de l'homme. Vous savez que l'opposition nationale est muselée depuis un temps. La situation au Bas-Congo et ailleurs, avec des massacres. Enfin, sur le plan de la souveraineté nationale, des inquiétudes également sur l'intégrité territoriale du pays. J'en veux comme exemple le cas de Kaimba, au Kivu, en Ituri, également au Katanga. Enfin, de quoi inquiéter. Nous souhaitons que la loi budgétaire qui sera déposée en lecture au Parlement pourra corriger ces inquiétudes, en tout cas les calmer, et nous souhaitons que le gouvernement se reprenne sur la situation des droits de l'homme, qui est tout de même chaotique.
Selon l'ancien vice-président Zalias Roubéroy du RCD, le gouvernement Gizenga se retrouve dans une sorte d'immobilisme. Il a dit au cours d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa. Ses propos ont été recueillis par notre confrère Daniel Tamizoni.
Lorsque nous étions au gouvernement, j'avais insisté sur la nécessité d'avoir un code de bonne conduite. Il a été conçu, mais il n'a jamais été adopté. Nous avions fait l'effort d'aborder des questions de pudeur, de moralité et bien d'autres. Alors, je ne sais pas s'il y a un code de bonne conduite maintenant, mais de manière générale, je crois que vous comprenez les limites de ce gouvernement. Nous avons affaire à un gouvernement qui ne décolle pas, qui laisse entrevoir un certain vide. Nous avons affaire à un gouvernement qui, s'il garde le rythme qu'il a pendant 5 ans, et s'il reste ce gouvernement-là, le peuple n'aura pas eu assez par rapport à ses attentes.
Gouvernement qui ne décolle pas, opposition muselée, inquiétude au sujet de l'intégrité du territoire. Qu'est-ce que votre réaction d'abord par rapport à ces deux propos?
D'abord, par rapport au premier intervenant, c'est quand même regrettable de voir les gens qui ont géré avant que nous n'arrivions et qui sont en grande partie responsables de ce que nous devons corriger aujourd'hui, donner des leçons. Bundu Dia Kongo, c'est avec le gouvernement de transition dans lequel ils étaient. Les déficits des finances, c'est avec eux. La multiplicité, disons la prolifération des gens en armes qui créent l'insécurité, c'est, ça a commencé avec eux. Bref, je ne vois pas comment on peut sérieusement, sauf si vraiment on est très subjectif, trouver qu'il y a lenteur dans l'élaboration du budget lorsque, après n'avoir laissé aucune donnée fiable, après avoir laissé des bureaux vides, un gouvernement se débat pour, en un mois, déposer un budget à l'Assemblée, dire que c'est lent. Ben, ça, en fait, nous lui laissons le jugement pour lui-même. En ce qui concerne l'opposition, l'opposition est dans les institutions, notamment à l'Assemblée. À ce que nous sachons jusqu'à ce jour, l'opposition l'empêche pas de parler. Et à ce que nous sachions, il y a eu même des membres de l'opposition qui ont été choisis à la tête de certaines commissions parlementaires. Moi, je ne sais pas, il faut qu'on vous précise exactement qu'est-ce qu'il faut pour que l'opposition se sente valorisée, estime qu'elle a voix au chapitre. Pour le moment, nous sommes prêts à examiner les actions dans les institutions par rapport auquel l'opposition peut dire pour tel acte, voilà, on m'a empêché de me déployer.
Par exemple, il y a Thomas Louaka, le secrétaire exécutif du MLC, qui ne cesse de dire à longueur de journée que le siège du MLC est occupé, et de Canal Kin et de CCTV, ce siège est occupé par les éléments d'abord de la garde républicaine, ensuite de la police, donc ils sont empêchés de travailler.
À ce que je sache, par exemple pour les sièges du MLC, des graves présomptions existaient à ce qu'il y ait des caches d'armes là-bas. Quel est le gouvernement sérieux dans un pays qui pourrait laisser une telle situation sans enquête? Et depuis plusieurs jours, le MLC est libre d'occuper son siège. Ça, vous pouvez aller vérifier.
Évidemment,
il n'y a plus de policiers. On a demandé le gouvernement du côté du pouvoir, on a demandé ceci. Si nous laissons la place vide, on viendra piller et vous direz que c'est venu du côté du pouvoir.
Mais il n'est pas alors comme une menace.
Non, ce n'est pas une menace. On a dit, vous venez avec ce que vous devez placer pour garder les lieux, et comme ça, on fait la remise de reprise, on parle, mais on ne peut pas laisser, et puis après tous les dégâts, vous mettrez ça sur le dos du pouvoir. Alors, je voudrais terminer par le deuxième intervenant pour dire, ça, c'est encore des propos tout à fait subjectifs. C'est quoi le décollage d'un gouvernement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un gouvernement décolle quand? Quels sont les critères pour lui du caractère mobile d'un gouvernement?
Peut-être qu'il reprend les propos de beaucoup de Congolais qui disent que ça tarde, l'accomplissement des cinq chantiers et des promesses que vous lui avez faites.
Oui, nous voulons bien, mais l'accomplissement des cinq chantiers, on a dit que ça devait se faire en 40 jours, 50 jours. Soyons quand même sérieux, c'est pas ça. Et si c'est ça l'immobilisme, si le travail préparatoire du budget, le travail pour lancer certains chantiers, le travail pour remettre de l'ordre, organiser, tout ça, ça ne compte pas, alors je regrette beaucoup, mais nous savons, nous surtout qui avons la formation technique, nous savons pour un travail d'un jour, on peut parfois prendre 5 jours de préparation, sinon tout est foutu.
Voilà, on vous a compris. L'opposition non institutionnelle représentée par l'UDPS en l'occurrence pense que le Premier ministre Gisenga est mis en difficulté de pouvoir fonctionner. Selon Rémi Massamba, secrétaire général de l'UDPS, sans une concertation avec toute la classe politique congolaise, il est difficile pour le gouvernement Gisenga de pouvoir bien avancer. Rémi Massamba a été joint une fois de plus par notre consoeur Kéline Couté.
Nous continuons toujours à soutenir que pour un État, ce qui compte d'abord, c'est une vision. Et cette vision, c'est ce que traduit la population de ce pays. Et en République démocratique du Congo, la population congolaise qui a accepté d'aller à ces élections avait une vision, attendait certainement une amélioration de son cadre de vie et une amélioration de la conduite des affaires de l'État, en tout cas une présence effective de l'État, une présence effective du gouvernement. Mais puisque ces choses ont raté, et nous ne cessons de le redire, les préalables fondamentaux qui créent un État n'ayant pas été rencontrés à travers ces élections, il sera difficile, à moins de faire de la magie, pour qu'un gouvernement, quel qu'il soit, sans se concerter avec l'ensemble de la classe politique congolaise, puisse réussir un quelconque programme. Et voilà, nous y sommes, 50 jours après l'entrée en scène du gouvernement Gisenga. Malgré la réputation que nous pouvons reconnaître à M. Gisenga, il est mis en difficulté de pouvoir fonctionner. En fait, il est un pion qui n'arrive pas à avoir ses bases, ses repères. Et c'est la faute de tous les Congolais ensemble en ce moment. Donc, nous avons toujours continué à réclamer une table ronde pour régler les problèmes fondamentaux qui permettront un jour enfin à un gouvernement de pouvoir assumer les responsabilités de l'État.
Votre réaction?
Mais si, évidemment, pour certains, un gouvernement qui marche, c'est quand ils sont là-dedans, nous comprenons. Mais pour nous, le pays sera en train de se redresser lorsque les routes seront faites, les écoles sont arrangées, les soins de santé sont disponibles, les entreprises s'installent, la production reprend. C'est ça concrètement.
Mais il y a même une crise.
Oui, il y a une crise. Nous sommes
à ça. Ne faut-il pas qu'il y ait une concertation?
Il y a quand même une crise.
Il y a une mauvaise.
L'opposition
partie de l'Assemblée nationale a suspendu sa participation.
Il y a une mauvaise foi en disant ça. Parce que c'est comme si on était déjà en 2011. Un tel discours, il faut le tenir en 2011. ce que nous pouvons dire, c'est prenons date. S'il n'y aura pas de routes qui vont être faites, s'il n'y aura pas d'écoles qui vont être construites, s'il n'y aura pas d'entreprises qui vont être créées, si la production ne va pas reprendre, si beaucoup de choses que le peuple attend ne vont pas se faire.
Dans combien d'électricité, combien de temps? Dans combien de temps?
On a 5 ans. Vous croyez qu'une ligne à haute tension entre Inga et le Katanga va se construire en un jour?
Donc il faut attendre que vous acheviez vos
gains. Il y a des choses qui vont se terminer en une semaine. Il y a des choses qui vont prendre un mois. Il y a des choses qui prendront un an. C'est comme ça.
Mais les gens n'attendent pas encore.
Point d'attente à Kinshasa, ça va peut-être prendre 2 mois. La route qui Kinshasa qui quitte ou Kinshasa Bakongo, ça peut prendre 6 mois. La route entre Kisangani et Beni, ça peut prendre 2 ans. Alors, vous ne pouvez pas croire que tout va se faire en 50 jours. Ça, c'est la mauvaise foi de la part des hauts responsables politiques qui doivent donner le vrai jugement. Voilà, et non pas faire valoir simplement leurs intentions. Ils veulent négocier pour qu'ils attendent que les conditions de négociation se présente, mais nous ne le voyons pas pour le moment.
Et qui est votre répondant au niveau de l'opposition? Est-ce M. Jean-Pierre Bemba? Est-ce M. Tshisekedi? C'est qui votre, celui que vous considérez comme opposant au niveau de la majorité présidentielle?
Mais nous sommes dans les institutions. L'opposition, à partir du moment où il y a eu élection, institutionnelle est connue. Ce sont les partis de la minorité. Et ces partis ont à s'organiser si ils veulent présenter une tête d'affiche, un leader. Ce n'est pas à nous d'aller dire nous voulons tel ou tel comme tête. Ce n'est pas ça. Mais si vous nous cherchez une autre opposition en dehors, ça nous regrettons beaucoup. Pour le moment, après élection, avec la constitution que nous avons, les choses sont claires. Il y a un gouvernement issu de la majorité. La majorité parlementaire, à côté d'elle, il y a une minorité, et c'est cette minorité qui joue le rôle de l'opposition.
Donc, nous n'avons pas besoin de l'opposition, elle est là. Votre partenaire, c'est l'opposition institutionnelle.
Bien sûr.
Représentée par M. Gilles.
Bien sûr, oui.
Voilà, bonsoir, Pamela Amunado.
Bonsoir, Claude.
Non, je n'ai pas dit par Jean-Pierre Bemba, mais représenté par les partis d'opposition qui sont dans le Parlement.
Merci pour la précision. Pamela Amunazo, vous venez de la part de nos auditeurs. Combien de SMS avez-vous déjà reçus pour l'émission de ce soir?
Nous avons reçu plus de 638 SMS.
Et que disent-ils?
Nous commençons par Zongo Fidèle de Beni, dans la province du Nord Kivu, qui propose ceci. Si Bizema reconnaît que son bilan est négatif, qu'il explique aux Congolais les vraies raisons de son échec. Mayombo Chibouyi à Kananga, dans la province du Kasai Occidental, dit que le gouvernement Bizenga présente déjà un bilan riche en contradictions. Un autre auditeur pense qu'il est très tôt d'évaluer le gouvernement Bizenga après 50 jours. Tout début étant difficile, il demande aux compatriotes de ne pas céder à l'extrémisme. Terminant par Makwacha Afia à Kindu dans la province du Maniema qui veut connaître la réaction du Premier ministre en rapport avec les événements du 22 et 23 mars dernier.
Voilà, il y en a qui disent que votre bilan, vous devez, le Premier ministre doit expliquer les raisons de son échec après 50 jours. Il y en a qui disent que vous avez beaucoup de contradictions. Il y en a qui demandent aussi à ce que les gens puissent se montrer patients parce qu'on ne peut pas juger un gouvernement après 50 jours. Votre réaction face aux auditeurs?
La réaction est simple. Pour ceux qui comprennent qu'il faut du temps, nous sommes d'avis avec eux. Pour les autres qui disent qu'on a échoué, je crois qu'il faut toute une émission pour qu'ils vous expliquent c'est quoi l'échec, ça consiste en quoi, qu'est-ce qui était attendu et qui n'a pas été fait. Et comment voit-il que ça ne peut pas se faire pour dire effectivement qu'il y a échec? Sinon, j'estime que c'est subjectif et je regrette beaucoup. Moi, je ne peux pas donner des explications à ce qui est subjectif puisque c'est l'auteur du subjectif qui doit s'expliquer et non pas moi. Voilà.
Merci Monsieur Godefroy Mayobo d'avoir répondu à notre émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue en Congolais qui a réalisé cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci également à tous nos auditeurs qui ont répondu nombreux au thème de ce soir. Au revoir et à demain. Au revoir. I'm not going to be able to do that.
Thank you.